c'est l'heure de l'émission Dialogue en Congolais avec Kéline Couté.
Bonsoir et bon début de semaine à tous. Pour la seconde fois, les chefs d'État de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs se sont retrouvés le week-end dernier à Kampala pour parler de la situation des guerres qui prévaut dans le Nord Kivu. Parmi les résolutions, on retiendra la mise en place dans 3 mois de la force internationale neutre qu'elle analyse faire des retombées de ces différents sommets et leur impact sur le retour de la paix dans la sous-région. C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce lundi 10 septembre 2012. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Oui, bonsoir madame.
Omar Kavota, vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu. Monsieur Kavota, bonsoir.
Bonsoir.
Et Abbé Richard Mugaruka, analyste politique et professeur à l'Université catholique au Congo. Monsieur l'abbé Mugaruka, bonsoir.
Bonsoir.
Merci parce que vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Jonathan Itou. Le sommet de Kampala n'aura pas de retombées pour le peuple congolais. Le problème du M23 n'est pas rwandais mais plutôt congolais. La majorité présidentielle est dans une grande distraction pour l'intérêt individuel. Imurani Sapro de Kindu, Maniema, des réunions en réunions, des conclusions en conclusions. Et la population souffre. En même temps, le M23 et ses alliés pillent les richesses de notre pays. Le gouvernement doit réunir la majorité, la société civile et l'opposition autour d'une même table en vue de monter des stratégies ensemble pour chasser l'ennemi hors de notre cher et beau pays. Merci de nous suivre, partenaire d'ici sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radioocapi.net.
Je le disais dans l'introduction, fin samedi dernier à Kampala, du sommet des chefs d'État de la région des Grands Lacs. À l'issue de ce sommet, les chefs d'État ont convenu la mise en place dans 3 mois de la force internationale neutre entre le Rwanda et la RDC. Cette force sera déployée principalement au Nord Kivu et sous mandat de l'Union africaine et des Nations unies. Elle aura pour objectif de lutter contre les groupes armés actifs dans cette partie de la sous-région. Le condensé de ces résolutions avec vous, Gisèle Cage, notre envoyé spécial à Kampala.
Le comité des ministres de la Défense est chargé de convoquer dans un bref délai une réunion extraordinaire. Elle aura pour objet, entre autres, de prendre des mesures visant à mettre en œuvre l'opérationnalisation de la force internationale neutre en vue de son déploiement sur le terrain dans un délai de 3 mois. La République unie de la Tanzanie vient à cet effet de s'engager à contribuer aux effectifs de cette force. À propos du financement, les moyens logistiques et techniques pour l'opérationnalisation de la force neutre, une mission vient d'être confiée à Yoweri Museveni, président en exercice de la CIRGL, celle d'obtenir l'appui auprès des États africains, des partenaires régionaux et internationaux. À la question humanitaire, après l'Ouganda qui a contribué avec $1 million américains, la RDC vient de souscrire avec le même montant, tandis que la Tanzanie, le Kenya ont promis 500 000 chacun pour assister les milliers de déplacés et réfugiés de la guerre de l'Est de la RDC. Le prochain sommet de chefs d'État et de gouvernement est prévu le 8 octobre 2012 à Kampala. Il sera question d'examiner l'avancement de la mise en œuvre des décisions prises lors du 3e sommet. Depuis Kampala, Gisèle Cage, Radio Okapi.
Merci Gisèle Cage pour tous ces détails. Après ce mini-sommet de Kampala, il faut dire qu'à Kinshasa, la classe politique analyse diversement les recommandations issues de cette rencontre. On les écoute au micro de Berry Franklin Luchaka.
4 chefs d'État de la CIRGL ont participé à ce sommet en l'absence du Rwandais Paul Kagame dont le pays est accusé de soutenir le M23. C'est ce qui fait croire au député MLC Jean-Lucien Boussa à l'échec du sommet.
D'une part, l'absence du président rwandais pose problème. D'autre part, les résolutions telles qu'elles ont été trouvées ne sont pas à la hauteur du défi à relever à l'est du pays et créer les conditions politiques internes propices à la stabilité politique et au développement de la République démocratique du Congo.
Pour sa part, le député Christophe Lutundula du groupe parlementaire ARD, membre de la majorité présidentielle, s'interroge sur la prise en charge de cette future force internationale à l'est de la RDC.
On nous a dit tout simplement que les troupes vont travailler sous le mandat de l'Union africaine et des Nations unies, mais je n'ai pas entendu quelque part préciser le financement. Vous savez bien que le financement, c'est le nerf de la guerre.
Notons pour l'instant que seule la Tanzanie a offert sa participation à la future force internationale devant être mise en place à la frontière entre la RDC et le Rwanda.
Merci Berry Franklin Lutshaka. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu, vous revenez de Kampala où vous avez pris part à ce mini-sommet. Comment vous analysez les résolutions issues de cette rencontre des chefs d'État?
Oui, merci beaucoup madame. Je voudrais commencer par les auditeurs de la radio Okapi, Maître Kavota ainsi que l'abbé qui est au studio. Saluer le point de vue des uns et des autres par rapport à cette crise. Je sais qu'ils sont nombreux, ceux qui me suivent au nord qui vous et qui voudraient savoir comment je voudrais analyser la crise qui se vit dans la province à la tête de laquelle je me trouve aujourd'hui. Moi, je crois que je vais analyser cette question sous trois volets. Le premier volet, je l'appelle constatation. Le deuxième volet, je l'appelle appropriation. Et le troisième volet, je l'appelle la phase d'action. Lorsque la CIRGL s'est réunie le 15 juillet, c'était à la suite d'une mobilisation générale de notre gouvernement qui a su convaincre les uns et les autres qu'il se pose un problème. Et là, je considère que cela s'appelle constatation. Tous les 11 pays membres de la CIRGL se sont réunis pour constater effectivement qu'il y a des souffrances des peuples congolais et qu'à la suite de cette constatation, tous les 11 pays ont condamné les auteurs aussi bien intellectuels que matériels. Le deuxième élément de cette constatation, c'est que le sommet du 15 juillet avait identifié clairement les forces négatives. Parce que vous savez que depuis tout ce temps, les Rwandais avaient réussi à ne considérer ou à ne faire considérer la seule force négative que le FDLR. Mais ce premier sommet-là a associé au FDLR les M23 qui sont des forces négatives. Le troisième élément à l'intérieur de la constatation, c'est la naissance de l'idée d'une force neutre à la suite de ces constats là-bas. Et puis, la quatrième idée à l'intérieur, c'était la naissance de l'élargissement du mécanisme conjoint de vérification. Parce que vous savez, depuis tout ce temps, c'était les Rwandais et la RDC qui avaient les mécanismes de vérification de tout ce qui se passe. Ça, c'est la première. La deuxième réunion, que j'appelle phase d'appropriation, les gens se sont appropriés les problèmes de la RDC, notamment en mettant en place le sous-comité de 7 pays membres qui ont réfléchi sur les actions urgentes à mener pour devoir mettre fin à l'interrogatif. Déjà, à cette phase d'appropriation, on a pu définir la taille de la force évaluée à un minimum de 4000 hommes. Et c'est ainsi qu'on est passé maintenant à ce que j'appelle la troisième phase, qui est la phase de l'action, c'est-à-dire la phase qui est issue du 9 septembre de Kampala de tout à l'heure, où les pays contributeurs ont été identifiés, notamment la Tanzanie, qui a d'ailleurs donné son engagement de donner même elle-même les 4000 hommes, notamment l'Angola, la République sud-africaine, le Kenya, et bien d'autres pays qui sont disposés. Et là d'ailleurs, je l'appelle phase d'action, parce qu'à l'issue de la réunion de Kampala, on a déjà défini une mesure urgente qui sera exécutée ce vendredi 14 septembre, parce que ce vendredi, tous les 11 ministres de la Défense vont se retrouver à Goma pour lancer les mécanismes de vérification qui ne concernent plus les deux pays, c'est-à-dire la RDC et le Rwanda, mais qui va concerner cette fois-ci l'ensemble des 11 pays de la région pour qu'on aille même à Rutshuru, même à Bunagana. Voilà pourquoi j'ai situé les trois phases dans les trois réunions qui se sont tenues dans la conférence des Grands Lacs.
Monsieur le gouverneur, dans le communiqué final de ce mini-sommet de Kampala, je peux appeler ça Kampala 2, on ne dit pas de qui sera, qui va constituer cette force, ni encore qui va la financer et comment va-t-elle fonctionner, alors que c'est ça que les gens attendaient de ce sommet de Kampala.
Oui, je pense que si vous lisez très bien, après avoir reçu la bonne foi de la Tanzanie qui se disait être prête à devoir fournir les forces, il y a un aspect dans ce communiqué-là, dans cette déclaration-là, l'aspect lié au financement. C'est-à-dire, Aujourd'hui, maintenant que la réunion s'est terminée, on a confié le mandat au secrétariat exécutif de la CIRGL de devoir poursuivre les contacts. Parce qu'on est déjà dans un processus qui est parti de tout ce que j'ai décrit ici jusqu'à l'avènement de ce jour.
Et c'est maintenant que vous allez chercher.
Le professeur Kumbaloua va maintenant contacter l'ensemble des pays contributeurs, ceux qui peuvent donner les moyens pour que à la quatrième réunion, qui est la phase que je qualifie d'évaluation de mise en œuvre, on puisse maintenant savoir quel est le pays qui a déjà donné la possibilité de financer cette force, quelle est l'organisation qui a déjà libéré les moyens, et cela sera fait à la quatrième réunion, c'est pourquoi on l'a prévu le 8 octobre 2012.
Mais est-ce que vous estimez que d'ici 3 mois, cette force neutre sera mise en place, monsieur le gouverneur, puisque vous ne savez même pas encore qui va financer cette force, c'est maintenant que vous cherchez les financements auprès des pays africains et de la communauté internationale?
Non, c'est parce que dans une telle émission, on ne peut pas revenir sur tous les aspects. Je pense que ceux qui ont lu le communiqué ou ceux qui ont lu le rapport qui a précédé celui des chefs d'État, ils ont reçu le rapport de professeur Kumbaloua qui a été à New York, qui a été dans tous les pays africains, qui est en train de poursuivre les contacts pour obtenir que certaines avancées puissent se faire. Donc, il y a déjà un travail qui est en train d'être fait aujourd'hui. Tous vous et moi, comme tous les auditeurs, attendent effectivement que la force soit mise en place. Tout le monde attend que les financements soient trouvés. Et je comprends effectivement que les uns et les autres aient un doute parce qu'il y a des peuples qui souffrent.
Merci.
C'est tout à fait normal et je m'associe aux douleurs des gens qui attendent que finalement les choses aillent plus vite. Je ne suis pas en train de défendre une cause qui ne va pas voir aboutir les mécanismes dans lesquels nous sommes. Je voudrais en même temps que tous les auditeurs, que tous les peuples congolais prient à ce que, effectivement, cette force soit opérationnelle et qu'on puisse bouter dehors ces deux forces négatives, à savoir les FDLR et les M23.
Alors, monsieur,
qui sont en train de stabiliser la région.
Monsieur le gouverneur, une dernière petite question avant de passer la parole à Omar Kavota. Cette force sera déployée où?
Oui, dans la réunion de Kampala 1, on avait défini les axes. On avait dit qu'il y aura 4 axes, notamment l'axe à Beni, Wenzori, pour traquer les EDF Nalu, parce que ce sont des forces qui sont présentes également dans les massifs de Wenzori. Le deuxième axe était tracé à Rutshuru, pour anéantir effectivement les M23. Le troisième axe, c'est à Masisi, pour à la fois les M23 et tous les groupes armés FDLR et groupes armés locaux, et le quatrième axe dans la plaine de la Ruzizi pour la partie sud Kivu. Voilà, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les textes tels que cela a été défini par le chef d'État dans le sommet de Kampala 1.
Merci Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu. Omar Kavota, vous êtes vice-président de la société civile du Nord Kivu. Quelle est votre analyse à vous, votre lecture de recommandations issues de Kampala 2?
Merci madame. Permettez que je salue d'abord son excellence monsieur le gouverneur de province, ainsi que l'abbé avec qui nous débattons aujourd'hui et les auditeurs de Radio Okapi. Et s'il faut revenir à votre question, madame, au niveau de l'aspect civil du Nord Kivu, nous réalisons que Kampala 2, c'est un véritable raté. Et nous déduisons que la puissance de l'État congolais a été réellement réduite. Et la CIRGL n'a fait que jouer la carte du M23, malheureusement. Nous avons 4 raisons qui nous poussent d'analyser de cette façon cette situation. La première raison, madame, c'est lorsqu'il est convenu que la voie de la force internationale neutre devra intervenir dans 3 mois. Vous imaginez, madame, que ces 3 mois sont largement suffisants pour permettre au M23 d'étendre son contrôle sur l'ensemble de la province du Nord Kivu. La deuxième raison, lorsque nous remarquons que la CIRGL dissocie les M23 du Rwanda jusqu'à proposer même une approche politique, c'est-à-dire visant même jusqu'à négocier avec l'M23, ce qui veut simplement dire qu'on cherche à légitimer l'existence du M23, ses actions, voire ses revendications. Cela ne signifie pas autre chose que jouer la carte du M23. La troisième raison, lorsque la CIRGL continue à responsabiliser expressément le président ougandais Yoweri Museveni de la conduite du processus vers la solution au problème du M23. Alors qu'on sait pertinemment que l'Ouganda c'est un allié du M23 aussi que le Rwanda. Et ça, réellement, ça veut dire que la RDC n'a pas été considérée dans ce sommet. Et enfin, lorsqu'on sait de la CIRGL, la RDC est réduite, soumise aux solutions de ses agresseurs. Nous demandons si finalement, on est en paix d'observer la souveraineté de notre État. Et malheureusement, dans tout ceci, ce qui nous surprend, et ce qui surprend tout le monde, c'est que nos dirigeants cautionnent cette situation. Et donc, ils commencent à se demander pour qui finalement ils sont en train de rouler dans cette question du M23. C'est pourquoi nous, au Nord Kivu, nous, la population civile, en tout cas, nous ne nous reconnaissons plus dans ce qui est en train d'être fait par nos dirigeants, et plus particulièrement ce qui a été fait à Kampala.
Et donc, il faut comprendre par là, Omar Kavota, que vous restez pessimiste quant à l'aboutissement même ou la mise en place des forces neutres ou encore des résolutions qui seront issues du prochain sommet des chefs d'État.
Absolument. S'il faut comprendre la question telle que l'a analysée son excellence, monsieur le gouverneur, nous pensons que réellement on est passé à la phase de la constatation telle qu'il a évoquée, parce qu'on a reconnu les souffrances que nous sommes en train de subir ici au Nord Kivu. On s'est approprié le problème, certains États ont fait presque de ce problème les leurs. Malheureusement, à la phase de l'action, ils sont en train de s'abstenir d'agir ou ils sont en train de désorienter l'action. Et ça, c'est très dangereux.
Alors, il y a cet auditeur qui nous écrit de Bukavu, il s'appelle Paul Tumsifu Tchamunani. Il dit ceci, le déploiement de la force neutre à la frontière congolo-rwandaise dans 3 mois est une bonne chose pour stopper les troupes rwandaises qui peuvent de nouveau tenter de renforcer la M23, mais dire aussi que c'est cette même force neutre qui doit traquer les FDLR, c'est encore compliqué les choses. Ces derniers ne sont pas à côté des frontières, ils sont loin dans les forêts du Kivu. Les nombres des soldats qui doivent construire Le nombre de soldats qui doivent constituer cette force ne peut pas remplir ces deux missions. Terminer d'abord avec les M23 qui sont très bien localisés et après envisager un autre plan pour traquer les FDLR. Réaction au Marc Avota. Cet auditeur estime que dans 3 mois, c'est une bonne chose pour la mise en place de cette force neutre. Ça va permettre de stopper les troupes rwandaises qui peuvent tenter de rentrer de nouveau dans le pays.
Non, peut-être que l'auditeur n'est pas au Nord Kivu. Vous savez, nous qui sommes au Nord Kivu, nous passons chaque nuit la peur au ventre. On s'est dit, finalement, ils vont encore occuper quel endroit, et dans les 3 mois, madame, je vous assure, telle que la situation se présente sur terrain, ils auront à occuper toute la province. Et ça, nous craignons. Et nous nous disons, peut-être, en tout cas, on commence à se dire que cette force dite internationale neutre n'est une force qui viendra à légitimer l'occupation du M23. C'est une force finalement qui va accompagner l'agression et la balkanisation. Parce que dans les 3 mois, c'est réaliste que le M23 garde ses positions initiales, d'autant plus que au regard de l'activisme actuel qui s'observe, le M23 s'est renforcé suffisamment à troupes rwandaises et alliées. Et il ne va pas attendre que cette force prenne le pied pour qu'elle ne fasse aucun effort de conquérir de l'espace. Et donc, nous sommes en train de voir finalement que la CIRGL n'a pas agi dans l'intérêt de la nation congolaise. Et nous sommes en train de nous dire aussi qu'au regard des explications des autorités congolaises, nous ne comprenons plus grand chose parce que nous, on se disait qu'ils étaient aussi déçus que nous par rapport à ces résolutions qui vont amener aux populations de subir pendant 2 mois et même peut-être on va arriver à des années ces souffrances que nous sommes en train de traverser.
Il y a une autre réaction, Marc Avota, qui vient de Jonathan Itou. Il dit ceci, le sommet de Kampala n'aura pas de retombée pour le peuple congolais. Le problème du M23 n'est pas rwandais, mais plutôt congolais. La majorité présidentielle est dans une grande distraction pour l'intérêt individuel. Pour cet auditeur, le M23, c'est un problème congolais.
Non, effectivement, c'est l'erreur qu'on a commise à travers ces sommets qui sont en train de se multiplier à Kampala. Parce qu'on vient de dissocier le M23 du Rwanda, alors que, madame, nous vous assurons qu'il n'y a pas de M23 et le Rwanda. Le Rwanda et le M23, c'est un bloc. Et le bloc, c'est le Rwanda, mais qui se présente sous étiquette M23. Et donc, lorsque la CIRGL, malheureusement, avec la passivité de nos autorités, arrive à accorder à reconnaître l'M23 comme un groupe à part, en dehors du Rwanda, à les dissocier, à de l'agresseur. C'est là, effectivement, qu'on commence à mal orienter les actions, et donc ces actions ne doivent plus rencontrer l'assentiment du peuple, et ces actions risquent d'être illégitimes ici.
Merci Omar Kavuta, M. l'abbé Richard Mugaruka. Vous êtes analyste politique et professeur à l'Université catholique au Congo. Quelle est votre lecture à vous de ce deuxième sommet de Kampala où on a remarqué l'absence du Rwanda et d'autres chefs d'État africains aussi à ce sommet. Comment vous analysez ces deuxièmes sommets de Kampala?
Je partage tout à fait le point de vue de Monsieur Kavuta de la société civile du Nord Kivu. D'abord, je voudrais souligner ce qui, moi, me touche le plus et qui devrait toucher tout homme indépendamment de l'appartenance à la nation congolaise. Au Nord Kivu, on connaît une véritable situation d'urgence humanitaire. On parle non pas seulement, je parle non pas seulement des 250 000 déplacés, mais aussi de tous les assassinats, de tous les viols, de tous les pillages qui se commettent dans cette région occupée par des forces qui n'ont aucune légitimité, cette région qui est devenue carrément une zone de non-droit. La souffrance de nos compatriotes est indescriptible. Et je pense qu'il faudrait être très, très sensible à cet aspect du problème et constater dès le départ qu'un délai de trois mois est trop long. Parce que chaque jour qui passe pour ces gens-là qui souffrent est un jour de trop. Et chaque mort de plus est un mort de trop quand on sait que dans cette région, il y a eu déjà eu plus de 6 millions de victimes de cette guerre. C'est une première chose que je voudrais dire, et donc face à cette urgence-là, les mesures qu'on a envisagées, le dialogue, parler, c'est vraiment perdre du temps. Il faudrait aller vite à l'action, même si cette action exige du temps, il faut quand même lui donner un coup de pouce pour qu'on aille très vite. C'est la première constatation. La deuxième, c'est que Kampala 2, comme Kampala 1, comme toutes les autres instances, tous les autres forums qui ont été réunis autour de la question congolaise depuis que notre pays est agressé, se sont avérés insuffisants. Insuffisant tout simplement parce que il s'agit d'un complot international où même les grandes puissances sont de mèche avec les Rwandais, les Ougandais et les Burundais qui ont agressé le Congo, vous le savez. Le 12 janvier 2008, au moment où on a réuni la conférence de Goma, qui était la première conférence relative à cette question de l'insécurité du Nord Kivu, vous avez entendu le président français Sarkozy qui avait dit qu'il faut que le Congo ouvre aux Rwandais l'accès aux richesses du Kivu. Oui, mais c'est contraire au droit international, c'est contraire à toute logique d'entendre un président qui demande qu'un autre pays ouvre ses richesses à un pays voisin. Ça ne se fait pas comme ça. Ça se négocie et sur base du respect des prescrits du droit international. Maintenant, quant à cet énième forum qui a échoué, c'est très clair que c'est un échec. Et même pire, c'est une complicité avec le projet de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Remarquez, il y a 6 faits qui étonnent. 1. Quorum, 4 présidents sur les 11 de la CIRGL. Deuxième constatation, absence de Kagame alors qu'il est le premier concerné. Troisième constatation, Museveni juge alors qu'il est aussi parti, parce qu'on sait très bien qu'il fait partie des pays qui ont agressé le Congo. Troisième élément, on nous demande 3 mois, c'est-à-dire on donne au M23 3 mois pour continuer à renforcer ses positions dans le Nord Kivu et de continuer à occuper tout l'espace qu'il désire occuper. Vous avez en plus de cela la Tanzanie qui est le seul pays à se présenter des hommes de troupes envoyés au Congo alors qu'il s'agit d'une force international, qui ne peut pas être constitué par les seuls Tanzaniens. Et en plus, le problème du financement. Personne n'en a parlé. On n'a pas parlé du fonctionnement de cette force. Et enfin, on nous propose 4 000 hommes, alors que la MONUSCO a déjà 17 000 hommes à elle seule, et que l'armée congolaise compte plus de 100 000 soldats. Cette surmilitarisation de la région du Nord Kivu, qui cause déjà tant de problèmes, et où on ne voit pas très bien comment pour combattre des éléments du M23 estimés à 600 personnes, parce que c'est le seul chiffre qu'on nous a donné. Comment pour combattre ces gens-là, il faut 17 000 éléments de la MONUSCO, 100 000 soldats de l'armée congolaise, auxquels il faut ajouter que les 4 000 Tanzaniens. C'est vraiment, ça donne l'air d'un bricolage, d'un vaste bricolage, et on voudrait bien participer au plan de la balkanisation du Congo, qu'on n'agirait pas autrement. Et c'est donc là que je vois que cette fameuse conférence de Kampala est tout simplement une mascarade.
Monsieur, alors, apparemment, on a l'impression qu'il n'y a que la RDC qui semble croire en ces différentes rencontres, qui reste optimiste.
Absolument, madame, et c'est là notre naïveté. Mais ce n'est pas seulement notre naïveté, c'est notre impuissance, et même quelque part notre complicité. Vous savez
que c'est-à-dire que la RDC négocie en position de faiblesse.
Absolument, et quand on négocie en position de faiblesse, on s'expose non pas seulement à la capitulation, mais à la trahison. Nous ne pouvons pas continuer. Notre peuple ne peut pas continuer d'aller d'humiliation en humiliation, de défaite en défaite, de capitulation en capitulation, de trahison en trahison. Il faut qu'on arrête ça. Et qu'on sache très bien que ce qu'il faut, ce qui est en jeu, c'est les rapports de force sur le terrain. Et c'est ça qu'il faut modifier. La politique étrangère d'un pays est toujours le reflet et le prolongement de sa politique intérieure. Et je demande ici, je pousse un cri de cœur à l'endroit de nos dirigeants, qu'ils commencent à prendre le peuple au sérieux, le peuple est souverain premier. Merci. Et qu'on cesse de nous donner des informations floues, incohérentes, opaques. Merci, et qu'on commence par déclassifier tous les accords antérieurs qui ont été signés et qui ont permis aux Rwandais d'entrer sur le territoire congolais.
Merci,
il faut qu'on déclassifie
ça
maintenant. Excusez-moi, juste une phrase. La rentrée parlementaire est prévue pour la fin de cette semaine, donc le week-end prochain. Il faudrait que le premier dossier qu'il faille mettre sur la table, ce soit justement la déclassification de tous les accords qui ont été signés pour savoir qui a fait quoi.
Merci,
parce
monsieur
qu'on ne peut
l'abbé.
Pas mobiliser le peuple dans une telle opacité.
Merci, monsieur l'abbé Mugaruka. Monsieur le gouverneur, vous avez suivi les analyses de l'abbé Mugaruka qui parle carrément d'échec de cette deuxième rencontre des Kampala. La société civile, elle reste pessimiste, elle ne comprend pas comment la CIRGL peut dissocier le M23 du Rwanda et puis légitimer le M23 pour que le président ougandais aille négocier avec eux. Comment vous réagissez?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec le président de la société civile et même l'abbé sur le plan de la description des faits, c'est-à-dire la manière dont ils décrivent les faits, ils ont totalement raison. Mais là où nous semblons ne pas être d'accord, c'est sur le plan de l'analyse. Parce qu'après la description, il faut maintenant analyser. Moi, je vois toutes les crises à travers le monde. On a signé les accords de Camp David, on a eu la crise en Libye, on a eu la crise en Côte d'Ivoire. Je voudrais que les intellectuels congolais me disent quand est-ce qu'une crise est née et les mois qui ont suivi, la crise a été résolue. Aujourd'hui, tout le monde, nous savons que la crise a commencé au mois d'avril 2012 et le premier sommet de la CIRGL est intervenu en juillet 2012, donc 3 mois après. Et pendant les 3 mois, nous avons eu 300 000 déplacés de guerre. Mais depuis que la crise a été gérée par les sommets des chefs d'État, eh bien, au moins à ce stade-là, on a arrêté cette vague de déplacement des populations. Moi, je crois que ça, c'est un premier résultat. Et vous savez que, c'est là où j'étais d'accord avec l'abbé qui a évoqué les complots. Et un des chefs d'État de la région a, dans une conférence de presse, dit clairement qu'il avait été donné mission de devoir mettre fin au leadership congolais pour voir à quelle hauteur les complots étaient arrivés. Maintenant que tous les pays, même la CIRGL, se sont rendus compte que c'est cela les complots et qu'il faut arrêter cette machine meurtrière qui allait finalement mettre à moule toute la République démocratique du Congo. Comment nous, attaque intellectuelle, nous ne pouvons pas déjà prendre cela comme un premier résultat. Et que on doit maintenant passer à une deuxième étape, après avoir arrêté cette entreprise meurtrière, qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes tous des Africains, nous savons que lorsque dans un village il y a beaucoup de morts, et que l'on dise qu'il y a un sorcier qui est en train d'être à la base de ces morts, je crois que quand on l'appelle dans les barzas, eh bien, lorsqu'il se sent déjà identifié, les villages font autant de jours sans enregistrer d'autres morts.
Monsieur le gouverneur,
je crois que ce sont là les quelques éléments que nous devons retenir en tant qu'analyste pour dire nous avions 300 000 déplacés en 3 mois. Le premier sommet a eu lieu, on a arrêté la machine et aujourd'hui on est en train d'aller maintenant d'une étape à l'autre pour voir comment on peut arriver à arrêter ce feu de brousse.
Monsieur le gouverneur,
qui allait dépasser le cadre de Goma,
monsieur
et arriver ailleurs en dehors de Goma.
Monsieur le gouverneur, s'il vous plaît, mais comment vous interprétez l'absence de plusieurs chefs d'État quand même à ce sommet de Kampala et même du Rwanda?
Oui, moi je pense que ce qui est important, c'est la volonté qui anime les pays membres de la CIRGL. Lorsque tous les ministres de la Défense sont arrivés pour représenter leurs chefs d'État et les décisions ont été prises, et la Tanzanie a annoncé son intention de donner les troupes, l'Angola a emboîté les pas, je crois que Eduardo dos Santos n'a pas été au sommet de Kampala 1 et 2, mais il est parmi les gens qui vont soutenir la force. Moi, je crois qu'on ne doit pas commencer à analyser autrement les conflits.
Mais ça,
aujourd'hui,
si
quelqu'un ne vient pas à un sommet et que les résultats soient atteints, est-ce qu'on aura tort d'avoir organisé une réunion à l'absence de quelqu'un lorsqu'on a déjà un résultat?
Mais puisque
le peuple congolais attend effectivement les résultats auxquels on doit arriver.
Monsieur le gouverneur, s'il vous plaît, puisque la RDC accuse le Rwanda de l'agresser, mais quand le Rwanda ne vient pas à ce sommet, comment on peut interpréter cela?
Et qu'on est dans une réunion où on va éteindre les feux. Est-ce qu'on doit regretter qu'il ne soit pas présent? Donc je crois qu'il faut analyser concrètement les choses. Lorsque quelqu'un n'a pas été dans une réunion, lorsqu'il a été cité par les Nations Unies, par toute la communauté internationale, et qu'il se soit absenté lorsqu'on veut définir la solution, pourquoi nous les Congolais nous regrettons qu'il soit absent dans une réunion où nous allons bénéficier de la solidarité internationale pour devoir mettre un terme à un conflit qui nous a déchiré? Donc je crois que nous devons cesser d'analyser les conflits avec beaucoup de passion. Tous nous savons que nous souffrons. Je suis à la tête d'une province où ce sont mes compatriotes qui sont dans les camps. Il n'y a pas de camp de déplacés au Rwanda, il n'y a pas de camp de déplacés dans un autre pays, comme c'est le cas chez nous. Je crois que ce que nous voulons, c'est effectivement qu'on arrive à une solution. À l'absence ou à la présence du président rwandais, si on arrive à arrêter la folie meurtrière, à éradiquer les FDLR et les M23, je crois que c'est cela que le peuple attend et non pas la présence ou l'absence de tel président dans une séance de travail.
Alors, merci monsieur le gouverneur. Omar Kavota, comment vous réagissez à l'analyse du gouverneur des provinces qui estime que même en l'absence du pays qu'on accuse comme agresseur, on peut prendre des décisions et des bonnes résolutions?
Non, je pense que plutôt, en dépit de son absence, sont ces résolutions qui ont fait. Et là, je pense qu'il faudrait qu'on puisse analyser autrement les pistes de solutions. Donc, nous passons à notre niveau, au niveau de la société civile, qu'il faut commencer à envisager ce passé de la CIRGL pour trouver solution à la crise actuelle, à la crise d'agression sous étiquette M23. Nous avons donc deux alternatives et nous pensons que la première, c'est d'envisager, de considérer d'abord que ce sont les FRDC, donc la force nationale, qui devait être mise à profit pour résoudre cette crise. Considérer que si l'échec, on a toujours à enregistrer les échecs du FRDC face au M23, ces échecs ne résultent pas de la faiblesse de nos hommes de troupes, mais plutôt d'une complicité à un certain niveau au commandement et l'absence d'une prise en charge conséquente de nos militaires engagés. Et qu'on commence à résoudre ce problème-là de fond jusqu'à ce qu'on puisse amener nos propres forces de défendre le pays, parce que en réalité, ce ne sont pas les autres États qui peuvent se soucier de notre situation plus que nous-mêmes. Et donc, nous pensons qu'au niveau des institutions politiques, même le Parlement devait commencer à interpeller certains responsables au niveau de l'État-major, des FARDC, au niveau des ministères de la Défense, et jusqu'à exiger même la démission de certains responsables à la suite de la défaillance notoire envisagée. Et une deuxième alternative que nous sommes en train de nous dire, à ces passages de la CIRGL, on peut recourir au Conseil de sécurité des Nations Unies en demandant la transformation du mandat de la MONUSCO, dont les troupes sont déjà ici sur terrain, et les amener à éradiquer les M23 qui sont considérés comme des forces négatives à l'état de FDLR, et amener à ce que ces forces appliquent la force pour finir. Mais si on peut à la fois envisager que c'est la CIRGL qui portera solution au problème en allant même jusqu'aux approches des négociations avec l'M23, je vous assure, madame, c'est amener à ce que la violence armée soit perpétuée ici parce que d'autres groupes armés vont également revendiquer des négociations. On va amener à ce que cette situation perdure et s'il faut compter 300 000 déplacés dans 3 mois de guerre qu'on a enregistré, et envisager une force qui va mettre fin à ces souffrances dans les 3 mois prochains, donc on aura encore à registrer 300 000 autres déplacés, et donc ça fera toute la province qui sera en réalité à catastrophe humanitaire.
Alors Omar Kavota, est-ce que c'est les différentes résolutions issues de ces différents sommets ou mini-sommets pourraient-elles avoir un impact sur le retour de la paix dans la sous-région? C'est déjà la deuxième partie de notre émission.
Non, il y a aucun impact parce que si on pouvait rester dans la logique du sommet d'Addis Abeba, parce que nous avons été là et les résolutions qui étaient prises là-bas étaient des résolutions pertinentes, mais on les a désorientées en amenant les sommets à Kampala, à multiplier des sommets à Kampala, où d'ailleurs ce sont ceux qui nous agressent qui ont décidé de tout ce qu'on a eu comme résolution. Vous savez qu'à Addis Abeba, on avait considéré le M23 des forces négatives au même titre que l'FDLR. Et à ce titre, on avait envisagé mettre sur pied et diriger une force internationale, mettre devant traquer ce M23. Mais vous savez que ce sont les États qui nous agressent, entre autres le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et ses alliés, qui ont fait que l'on puisse requalifier les choses d'une autre manière jusqu'à aujourd'hui. Ce sont eux maintenant qui sont en train de conduire le reste du processus et ils les conduisent réellement à défaveur de notre pays.
Merci.
Et ce qui est en train de nous inquiéter, nous, c'est de voir que nos autorités ne sont pas en train de comprendre que dans tous ces sommets, c'est nous qui sommes en train de perdre et c'est l'agresseur qui est en train de consolider sa présence, de consolider ses positions et de rester comme si c'est lui qui était alors la victime pendant que nous en souffrons davantage.
Merci Omar Kavota, Abbé Mugaruka. Omar Kavota essaie de donner une piste de solution. Il estime qu'il faut se passer de la CIRGL pour trouver une solution au problème de l'Est. Vous allez répondre à cette préoccupation, mais avant ça, on va prendre cette réaction qui nous vient de pour vous.
John Boussibo a béni au Nord Kivu. Je me demande ce que ces dirigeants font réellement dans ces réunions, car aucun résultat jusque-là. 3 mois passés environ sans résultat. On donne encore 3 mois sans en définir qui fait quoi. La composition de cette force, les sources de financement, la durée et l'opérationnalisation même est encore abstraite. Addis Abeba, Kampala 1 ou Kampala 2, des réunions de chefs des États, des ministres de défense et demain ça sera des réunions de chefs des États-majors des armées. Rien ne rassure en tout cas. Cette fois, à mon humble avis, n'est qu'une simple distraction. Car aussi longtemps que les Congolais n'ont pas encore pris conscience, pensez-vous que ces étrangers intéressés que par nos richesses pourront faire quoi si ce n'est que se moquer de nous?
Abbé Mugaruka, réaction.
Il a tout à fait raison. Le peuple congolais se libérera par lui-même ou bien il ne sera jamais libéré. Il ne faut pas que nous fassions des illusions. Les intérêts de notre pays ne correspondent pas aux intérêts des pays voisins, ni même des pays de la CIRGL, ni même aux intérêts des grandes puissances. Et si donc nous pensons que ce sont les autres qui vont nous libérer, nous allons continuer à déchanter et ils vont poursuivre ce plan de la balkanisation qui permet à tout le monde de pouvoir avoir accès aux richesses de notre pays parce que c'est tel est l'intérêt objectif de nos voisins.
Alors faut-il faire du sujet de la CIRGL?
Comment ?
Faut-il se dissocier de la CRGL pour trouver une solution au problème de l'Est ?
Il ne s'agit pas de se dissocier de la CRGL, mais vous savez très bien que dans les relations internationales, ce qui compte, c'est les rapports de force. Tant que nous serons faibles, et tant que dans notre propre pays, il va y avoir, au niveau des dirigeants politiques et militaires, des complicités avérées, eh bien, tant que nous serons faibles, tant que nous allons nous-mêmes être complices de notre propre de la Balkazie, notre propre pays, eh bien, ça ne fonctionnera pas. J'y rejoins ce qu'a dit Monsieur Kabota, et ce que vient de dire l'historien, il faut que nous puissions nous arrêter, qu'on déclassifie tout et qu'on travaille dans la transparence pour pouvoir d'abord établir les responsabilités internes. Parce que notre diplomatie est toujours, la diplomatie de tout pays est toujours le reflet, le prolongement de la politique intérieure. Donc nous devons d'abord faire le ménage dans le pays, et c'est cela qui permettra d'avoir la mobilisation du peuple, parce qu'aujourd'hui le peuple ne comprend plus. Tout le monde sait, et on le lit, et on le voit dans les médias, que effectivement il y a des faiblesses et des complicités internes, et que c'est par là qu'il faut commencer.
Si je vous comprends bien, Monsieur l'Abbé, toutes ces résolutions n'auront pas ou n'ont pas d'impact pour le retour de la paix.
Non, ça dépend de nous, c'est-à-dire que si nous continuons à travailler, à vivre dans une absence totale de gouvernance, dans une absence de vision, dans une absence de rationalisation des planifications, eh bien les autres ne feront pas à notre place ce que nous devons faire. Les autres ne viendront pas, même les troupes là qu'on fait venir de l'extérieur, ils ne vont pas accepter que leurs hommes meurent à notre place, alors qu'il s'agit de notre pays. Donc le gros doit être fait par nous. Voyez un peu comment les Maliens réagissent. Ils réagissent d'une façon très très intelligente. Ils disent oui, nous pouvons demander l'aide des autres, mais le gros du travail doit être fait par nous-mêmes, car un peuple ne se libère définitivement que par lui-même. Je voudrais terminer en disant ceci.
Et ça tombe sur votre conclusion.
Monsieur le gouverneur, que cette guerre n'a pas commencé en avril dernier. Le M23, la guerre d'agression et de bataillisation du M23 s'inscrit dans le prolongement de la guerre d'agression qui a été déclenchée en 1996. Et je peux dire que M23 égale CNDP égale RCD égale AFDL. C'est la même guerre. Et il faut prendre cela au sérieux. On ne pourra pas y apporter une solution ponctuelle alors qu'il s'agit d'un problème global et qui dure. Il s'agit maintenant de chercher des solutions durables. Et c'est autre chose que d'aller comme ça de conférence en conférence. Il nous faut définir une politique cohérente de défense et de sécurité dans notre pays. C'est capital.
Merci.
Et j'en appelle à la responsabilité du peuple. Merci. Représenté par le Parlement qui va siéger bientôt.
Merci Monsieur l'Abbé Mugaruka. Monsieur le Gouverneur, il nous reste moins de 3 minutes pour mettre fin à cette émission. Vous estimez que toutes les résolutions ou toutes les décisions que vous prenez lors de vos rencontres ont déjà un impact pour le retour de la paix dans le Nord Kivu?
Moi, je crois qu'il y a déjà des résultats, mais qui ne sont pas encore suffisants. Parce que si on doit analyser, on doit se poser la question de savoir, en l'absence de toutes ces réunions ici qui sont arrivées à stopper la guerre, quel serait devenu le Nord Kivu, quel serait devenu la RDC avec les complots qui avaient été signalés dans une conférence de presse par un chef d'État. Ça, c'est de un. De deux, je voudrais dire à toute l'opinion qu'il y a une confusion dans les termes. Jamais dans toutes les réunions auxquelles j'ai assisté, on a parlé de négociations avec le M23. Ce concept-là doit être ôté de la compréhension de tout le monde. Parce que lorsque cela avait été évoqué dans une des réunions techniques, eh bien, on avait dit que si le M23 est déjà considéré comme force négative, et que si les Rwandais demandent qu'on négocie avec lui, il faut que lui-même négocie avec le FDLR, il faut que le Lugana négocie avec la LRA. Voilà comment la RDC a opposé un argument de taille à ce pays-là, et on a abandonné la logique de négociation avec le M23.
Merci.
Donc l'opinion doit savoir qu'il n'y a pas de négociation avec le M23, sinon pourquoi on amènerait la force neutre si alors on doit négocier? Merci. Avec quelqu'un qui demain va donner l'une
Merci
ou l'autre.
Monsieur le solutions. Gouverneur, le message est passé. Omar Kabota, un mot en guise de conclusion.
Nous appelons les autorités à jouer sage et nous invitons les Congolais à ouvrir les yeux, à ne plus être dupés. pour que réellement on fasse, on barre cette agression et ce plan de balkanisation. Mais également, au côté de sécurité, nous demandons qu'il puisse cesser de développer le Rwanda et ses alliés.
Merci Omar Kiavota, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Maté, Alain Rung, sous la supervision de Pelle, l'équipe Elamondo. Merci à Héritier qui est à la technique, au micro, Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.